on est aux environs du 17-18 août, la division reçoit l'ordre de rester sur place. Et au fond, on ne sait pas ce qui se passe. Et le bruit se répand que l'armée Patton ne va pas continuer son offensive vers l'Est, que la logistique n'arrive pas à suivre, qu'il n'y a pas d'essence pour une armée entière. Et la deuxième division blindée est affectée à la première armée, qui est immédiatement au sud de la troisième. La troisième armée est commandée par le général Hodges. Et dans cette armée, nous sommes affectés au cinquième corps du général Géraud. Le général Leclerc vit assez mal ces journées-là. Il est impatient. On est là à ne rien faire. Il est agacé et vraiment très difficile à vivre.
Je crois que ses rapports avec Géraud n'ont pas été fameux, non ?
Les rapports avec Géraud étaient terribles. D'ailleurs, je vais vous les raconter parce que j'en ai été l'intermédiaire. Ils ont été si mauvais que le général Leclerc, qui n'y craignait rien, m'a envoyé voir le général Bradley. Et le général Leclerc était très, très coutumier de prendre des liaisons à 2-3 degrés hiérarchiques au-dessus de ce qui aurait été normal. D'ailleurs, par parenthèse, lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, je reviens là un peu en arrière, si c'est permis. Comme lorsque nous sommes arrivés en Angleterre avec la 2e DB, le général et quelques officiers dont j'étais étaient arrivés en avion. Et pendant que toute la division arrivait dans des LST, on a su qu'elle débarquerait dans la région de Bournemouth, pardon. Et que la zone de cantonnement qui nous était affectée était la région de Doncaster, Hull, c'est-à-dire à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Vous voyez la distance qu'il y a à parcourir, et le général Leclerc m'a dit, allez, arrangez-vous pour qu'on ait des porte-chars, on ne va pas faire cette distance-là, nos chars. Bon, j'allais partout où je pouvais aller. Je connaissais pas mal de monde, puisque j'avais été chef du 4e bureau de l'état-major. Je suis donc allé un peu partout au War Office. On m'a dit non, c'est pas notre affaire, ça c'est les Américains. J'allais voir les Américains qui m'ont dit ben non, vous irez sur vos chenilles, tout ça c'est rien. J'en ai rendu compte au général Leclerc qui m'a dit mais il faut aller voir le général Eisenhower. Alors je suis allé voir le général Eisenhower.
Tout simplement.
Qui m'a reçu d'ailleurs dans la demi-journée où j'ai demandé à le voir et qui m'a rayonné avec ma question de chenille. Alors lui a eu une seule préoccupation. Il m'a dit écoutez, je suis content de vous voir parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est que vos hommes reçoivent leur courrier. Je vous charge personnellement de me dire, dans les 15 jours qui viennent, si le courrier avec le Maroc fonctionne. Si le courrier ne fonctionne pas, il faut que je le sache et que ça marche. Maintenant, pour ce qui est des chenilles, ne vous en occupez pas. Alors, on a conclu que ces Américains étaient des gentils types, des idiots. En fait, c'est nous qui étions des idiots parce que nous avions dans la tête l'esprit parcimonieux de l'armée française. On n'avait pas l'idée qu'à la veille de débarquer en France, on donnerait des chenilles neuves, ce qui a été fait. Alors, de cette même manière, Leclerc m'a envoyé voir le général Bradley, à qui j'ai exprimé le déplaisir du général de se trouver dans une armée de fantassins et qui ne bougeait pas, etc., etc. Alors, pour le général Bradley, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on ose venir lui dire des choses pareilles. Qu'un général de division envoie un officier de liaison à un général de groupe d'armée pour lui exprimer ses désirs. Alors ça, pour lui, c'était quelque chose de totalement incompréhensible. Mais c'était un brave type, ce général Bradley. C'était vraiment un très, très brave type. Et comme il n'a pas voulu que je reste, et par mon intermédiaire, que Leclerc reste sur une impression désagréable, il m'a dit, écoutez, puisque vous êtes là, je vais vous mettre au courant de nos intentions en ce qui concerne Paris. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Paris.
Vous êtes un des premiers qui a reçu ces confidences.
Comment ?
Vous êtes un des premiers
à recevoir ces confidences. Ah, tout à fait. Je pense que ça se passait le 19 ou le 20 août. Et alors, il m'a emmené dans une grande semi-remorque qui lui servait de salle de cartes. Il m'a montré la disposition du front, où étaient ces deux armées à l'heure actuelle, où était il savait où était naturellement l'armée qui venait du sud. Et il m'a dit, voilà, notre intention, les instructions que j'ai reçues, c'est de ne pas se battre dans Paris. Nous allons dépasser Paris au nord et au sud très très largement, et puis Paris se rendra quand ils voudront, quand ils en auront envie, mais les ordres sont ne pas démolir Paris. Ah, je dis, très bien, merci mon général, je rendrai compte au général Leclerc. Puis à ce moment-là, j'ai eu une idée qui m'est venue comme ça. Je lui ai dit, mais mon général, le jour où vous déciderez d'entrer dans Paris, il serait quand même normal que notre division y soit. Et parce que à ce moment-là, j'ai compris l'intérêt politique de la chose. Mais je me suis appuyé sur autre chose. Je lui ai dit, vous savez, nous avons dans notre division des gens qui ont fait Narvik, l'Érythrée, l'Afrique du Nord, etc. Ils méritent vraiment d'être parmi les libérateurs de Paris. Et Bradley m'a dit, mais c'est une très très bonne idée. Mais je ne peux pas vous donner mon accord, vous l'avez, mais il ne vaut rien, sans l'accord d'Eisenhower, à qui je vais en parler, et je vais lui recommander. Et ne vous inquiétez pas, je le vois demain. Très bien. Alors je rentre au PC du général Leclerc, à qui je dis, il n'est pas question de quitter cette armée, mais je vous apporte telle et telle information sur le plat Paris, et ma réaction a été la suivante. Et Leclerc se fout dans une rogne terrible, m'engueule, et me dit, alors quoi, vous avez déjà assez de vous battre, vous avez envie de défiler. Bon, du coup, en général, ça n'engage que moi, hein, ça sera exactement comme vous voulez, hein, moi, je m'en fiche, hein, j'ai fait ce que j'ai cru devoir faire, puis c'est tout. Puis je suis parti m'asseoir sur une botte de foin un peu plus loin et me faire apporter un casse-croûte. Bon, 5 minutes après, Leclerc avait réfléchi, vous pensez bien que ça avait pas traîné dans sa tête, mais... Il est revenu à côté de moi, j'ai vu sa canne à côté de moi. Moi, je n'ai pas bougé, je continue à manger dans ma gamelle. Il m'a dit, alors, vous lui avez dit, hein, on veut être les premiers à Paris. Je lui ai dit, mais oui, moi, je lui ai dit. Bon, ben, vous allez y retourner, et puis vous allez lui dire que je veux, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est enclenché toute une histoire qui est assez connue sur, justement, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, avant la décision d'envoyer la deuxième DB à Paris, la décision d'envoyer Guilbault en avant avec un groupe léger. Et voilà, voilà ce que j'ai. Voilà mon, si vous voulez, mon rôle, pour le petit qu'il a été, dans la libération de Paris.
Alors, il est pas mal,
avant Paris. Naturellement, à l'époque, je n'ai pas su ce que d'autres avaient fait, bien sûr. Tout de même, en s'approchant de Paris, quand vraiment la chose a été décidée, nous avons eu des rapports avec les gens de l'intérieur de Paris, qui sont venus voir le général Leclerc, qui ont demandé une action. Bon, l'affaire s'est enclenchée comme ça. Alors, par la suite de cela, beaucoup de gens ont écrit sur Paris. Nous sommes extrêmement nombreux à avoir libéré Paris. Billotte a écrit ses mémoires, Bourdet a écrit ses mémoires, Boissieu a écrit ses mémoires, et un beau jour, Philippe Duplay m'a fait connaître ce que Boissieu avait dit, qui était la chose suivante, que le général de Gaulle, dès Alger, c'est-à-dire bien avant que nous mettions le pied en Angleterre, avait donné comme mission au général Leclerc de libérer Paris et lui avait donné une lettre le nommant gouverneur provisoire de Paris dès son arrivée à Paris. Alors là, je ne le pense absolument pas. Je suis prêt, je mourrai en jurant que ce n'est pas possible, que Boissieu prend des libertés avec la vérité, qu'il embellit les choses. Alors, Boissieu s'est évidemment voué à défendre la mémoire du général de Gaulle, qui, à mon avis, n'a besoin de personne pour être défendu. Le général de Gaulle est un grand homme. Le général de Gaulle a rendu à la patrie des services absolument éminents. Il n'a besoin de personne pour être défendu. Et à dire vrai, personne ne l'attaque non plus. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Que le général de Gaulle, avec la profonde pensée politique qu'il avait, ait pensé bien avant d'autres à la libération de Paris, c'est fort possible. Je suis tout à fait prêt à le croire. Mais Ce que je ne pourrais pas croire, c'est que le général Leclerc ait participé de cette pensée. Parce que j'ai été l'officier de liaison du général Leclerc en Angleterre et en France, jusqu'à la libération de Paris. Et jamais le général Leclerc n'a eu la moindre impatience en ce qui concerne Paris. J'en veux pour preuve le fait que, étant affecté à l'armée Hodge, il aurait dû s'en réjouir. Vous savez que l'armée Patton était beaucoup plus au nord. Or, ça ne l'arrangeait pas du tout. Paris, pour lui, n'était pas quelque chose d'important jusque vers le milieu du mois d'août. Par la suite, bien sûr, il a, comme tout le monde, parfaitement compris l'intérêt de la chose.
Mais peut-être...
Alors, vous savez, les gens qui écrivent l'histoire l'embellissent souvent, la travestissent aussi, et puis quelquefois simplement se trompent. D'ailleurs, je vais vous en donner un petit exemple qui est absolument sans aucune conséquence. C'est justement dans l'affaire de la libération de Paris. La veille de la libération proprement dite, vous savez que Jean Leclerc a envoyé drone et un petit élément excessivement léger à Paris pour en fait faire savoir à la population et aux résistants de Paris que nous étions là, que nous arrivions. Le lendemain, le jour de la libération de Paris, nous ne savions pas très bien ce qui allait se passer. Nous ne savions pas si nous allions entrer dans Paris facilement, s'il fallait se battre maison par maison, nous n'avions aucune idée. Toujours est-il que moi, je n'avais rien à faire ce jour-là. Nous avions eu l'ordre de fonctionner. Les relations avec le général Giraud n'étaient pas tellement agréables, ce qui fait que je n'avais pas du tout envie d'aller traîner à son état-major. Puis enfin, quand même, la libération de Paris, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde du dehors depuis l'état-major du général Giraud. Alors, pendant que tout se mettait en place, au fond, je me suis dit, mais si j'allais à Paris, Drogny est allé, je peux bien y aller aussi. Alors, ça a été la chose la plus facile du monde. Je suis parti dans ma Jeep, je suis venu par Gentilly, et puis là, c'était très simple, Paris est plein de Français qui me disait, mon commandant, passez par ici, passez par là, il n'y a pas d'Allemand dans cette rue, passez par là. Je suis arrivé place de l'Hôtel de Ville sans avoir vu un seul Allemand. Alors, place de l'Hôtel de Ville, j'ai cherché à voir Drone, que je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai traversé le parvis, puis j'ai vu qu'on bougeait un petit peu du côté de la préfecture de police. Alors, je suis entré là-dedans, où il y avait en effet beaucoup d'agents de police. Et puis, j'ai vu quelques uniformes kaki, et j'ai vu un petit général qui était charmant, puis qui s'est mis au garde à vous devant moi très gentiment. Alors je lui ai dit qu'il ne se frappe pas, qu'il ne se mette pas au garde à vous, que c'était moi qui étais au garde à vous, parce qu'il était général. Et c'était Chaban. Alors Chaban m'a dit, ah mais c'est formidable, vous venez de la division Leclerc, je voudrais beaucoup voir le général Leclerc. Ah ben, je lui ai dit, c'est très facile, puisque je suis venu jusqu'à vous, je vais vous ramener. Pas plus difficile, je l'ai fait monter dans ma Jeep, et puis nous sommes ressortis de Paris, comme j'y étais entré, en nous débrouillant pour ne pas rencontrer d'Allemands, puis j'ai amené Chaban à Leclerc. Et puis ils ont fait ensemble leur entrée dans Paris, moi je suis reparti à mes propres affaires à ce moment-là. Alors je vous raconte ça parce que je n'ai pas revu Chaban pendant des années. Et un jour, nous nous sommes rencontrés quand on a fêté le 40e anniversaire de la libération de Paris, je me suis trouvé dans une petite salle de l'Hôtel de Ville où il y avait des photographies des événements de l'époque et il y avait là Chaban. Alors je suis allé à lui et je me suis présenté et il ne m'a certainement pas reconnu évidemment, mais il avait un souvenir très net de cette histoire, il était enchanté qu'on se revoie. Et donc nous nous sommes vus, puis après il y avait un grand dîner, un grand déjeuner à Versailles, au Floralie, à Vincennes, je veux dire. Donc nous nous sommes reparlés un petit peu. Et puis Chaban, qui était heureux de renouveler un peu son stock d'histoires à raconter quand on l'interviewait, a raconté cette histoire-là, mais il l'a raconté sous une forme différente. Il a raconté que j'étais lieutenant, que je lui avais été envoyé par Leclerc, enfin, des choses qui sont inexactes, qui n'ont strictement aucune importance, mais qui montrent comment, dans le feu des choses, chacun garde un souvenir qui n'est pas forcément très exact. Et quand l'histoire est écrite, eh bien, après, des inexactitudes peuvent s'y mêler. Alors, dans le cas présent, ça n'a strictement aucune importance, que ma rencontre avec Chabon n'a rien d'intéressant. Mais sur beaucoup d'autres points, c'est tout de même capital que l'histoire retienne comment s'est faite la libération de Paris. Alors, naturellement, les gens comme Chabon ont eu leur rôle, les Féfi ont eu leur rôle, la mission Bourdet auprès du général Patton, etc., tout ça a joué. Donc, je crois qu'on a été un certain nombre à pousser dans le même sens, et puis, après ça, chacun racontait son histoire comme il le voulait. Moi, je n'ai pas raconté la mienne, parce que un jour, en parlant avec le général Leclerc, je lui reparlais justement de ces missions qui me faisaient faire à des échelons de hiérarchie très élevés, qui n'avaient aucun rapport avec ce que nous aurions dû faire. Je lui dis, vous savez, vous m'avez fait faire des trucs incroyables. Après avoir été votre officier de liaison, je pourrais faire un commis voyageur extraordinaire, je pourrais vendre de la glace à des Esquimaux. Il m'a dit, oui, c'est vrai, quand même, je vous ai fait faire de drôles de trucs. Vous devriez écrire vos mémoires. Alors, je lui ai dit, oui, ça c'est faisable, mais vous devriez écrire un art de la guerre. Alors, Leclerc m'a dit, l'art de la guerre, hein. Chacun se bat suivant son tempérament. Puis nous en sommes restés là, il ne l'a pas écrit, ni moi non plus.
Et vous n'avez pas l'intention d'écrire vos souvenirs?
Comment?
Vous n'avez pas l'intention?
Non, je n'ai pas l'intention d'écrire mes souvenirs, je veux dire pourquoi.
Eh bien, je me félicite de vous avoir interrogé.
Je veux dire pourquoi je ne l'ai jamais fait. On me l'a demandé souvent, mes enfants m'ont demandé. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve que ça n'est pas vraiment convenable. Vous voyez, les gens qui écrivent leur mémoire, il y a deux sortes de gens qui écrivent leur mémoire. Il y a ce que j'appellerais les grands acteurs, De Gaulle, Churchill, des gens comme ça. Bon, leurs mémoires sont sujets à caution. Ils racontent naturellement ce qu'ils veulent bien, de la manière dont ils le veulent, après que les événements se sont passés. Ça n'enlève absolument rien à la grandeur de De Gaulle, à la grandeur de Churchill, de leur dire que leurs mémoires sont quand même truffées d'inexactitudes, qu'ils ont arrangé les choses, parce que forcément, ce sont des hommes et ils veulent montrer qu'ils ne se sont jamais trompés. Et puis alors, il y a les seconds couteaux, les gens dans mon genre, qui ont eu la chance d'être mêlés, d'être témoins des événements, et même un peu acteurs de grands événements. Alors ceux-là, ils ont une grande tendance, c'est de montrer que si tel grand homme a fait telle chose, c'est eux qui étaient derrière, qui en réalité ont tout fait. Alors ça, non. Non. Et puis vous savez, les mémoires, on sait quoi en penser. J'ai traduit, comme peut-être vous, les commentaires de César.
Ah oui.
Hein, on sait que même les officiers généraux. Hein.
On va revenir à Paris.
Alors on revient à Paris.
Ce mois d'août, car vous avez participé au combat du Bourget.
Alors, bien avant ça, il y a eu. Ça a été assez compliqué parce que Paris s'est donc libéré assez facilement. Il n'y a pas eu de combat important. Il y a tout de même eu des combats assez curieux. Vous savez, les choses ont toujours un côté tragique, un côté cocasse en même temps. Un côté tragique, par exemple, je connaissais un garçon qui a engagé à la 2e DB, arrivant à Longjumeau, a téléphoné à ses parents à Paris, c'est moi, j'arrive. Et il a été tué en entrant à Paris. Côté cocasse. Et bien, côté cocasse, je suis allé voir le général Géraud, qui avait élu domicile 4 bis boulevard des Invalides, là où se tenaient autrefois les généraux d'armée du Conseil supérieur de la guerre. Il était d'ailleurs dans le bureau qu'avait occupé quelques années avant le général Giraud. Et le général Giraud voulait absolument que la 2e DB participe à ces combats du Bourget, etc. Or, il avait été décidé par le général de Gaulle, et puis d'accord, tout le monde était d'accord chez nous, que la 2e DB ferait un défilé dans Paris pour montrer que c'était les Français qui étaient là. Alors, le général Géraud m'avait donné un ordre écrit à porter au général Leclerc d'avoir à reprendre les combats dans la minute. J'ai mis l'ordre dans ma poche, puis je ne suis pas allé voir le général Leclerc parce que je ne voulais pas le mettre dans l'embarras. Donc, je suis allé me bagnauder un peu partout dans Paris. Alors, chose cocasse, en quittant le boulevard des Invalides, j'entends une vague canonnade du côté de l'esplanade des Invalides. Alors, j'y vais voir. Et là, je trouve le colonel Rouvillois, qui était à peu près sur l'esplanade à côté de ce qu'est la gare d'Air France, là. Et puis on canonnait un petit peu des Allemands qui se trouvaient dans l'aile du ministère des Affaires étrangères le long de l'esplanade des Invalides. Alors Rouvillois me voit et me dit, écoutez, je suis tellement embêté, regardez tous ces gens qui sont autour de nous, c'est effroyable. Et en effet, il y avait des quantités de civils qui étaient...